pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bienvenue à vous qui nous rejoignez sur O2 Radio en ce mardi 2 décembre 2025. Il est 14h pile, oui, encore, comme hier et comme demain, sans doute. Le 2 décembre est le 336e jour de l'année du calendrier grégorien, 337e lorsque l'on est en année bissextile. Il reste ensuite 29 jours avant la fin de cette année. Ce jour, l'équivalent du 12 frimaire du calendrier républicain ou révolutionnaire français, officiellement, attention, dénommé jour du réfort. Vous savez, ce condiment à la saveur piquante, ce condiment car dans le calendrier révolutionnaire, chaque jour en hiver, porte un nom de céréales, d'arbres, de fleurs, de fruits, de racines, bref, tout ce qu'on peut trouver. Et pour partager le réfort avec moi en studio, le plus ombrageux des arbres, Jean-Jacques, bonjour.
Mais bonjour Anise.
Vous allez bien ?
Ça va, je ne vous regarde pas de toute façon.
Et le plus exotique des fruits, bonjour Patrick.
Oui, bonjour Anise, je ne sais pas comment je dois le prendre. Je ne sais pas de quel fruit ça, il s'agit. Serait-ce la banane, la mangue, la goyave ?
Le fruit de la passion.
Le fruit de la passion. Fruit de la passion.
Bonjour Patrick.
Bonjour Jean-Jacques, comment ça va ?
Ça va très bien, je plaisantais à l'instant.
Ah ben, j'en doute.
Allez, aujourd'hui, l'heure qui va suivre dans Cinéscent est consacrée à l'année 1993.
Alors nous commençons cette année 1993 par le 8 janvier. D'habitude c'est le 1er, mais là nous c'est le 8.
C'est étonnant.
Alors jour où est abrogée une loi de 1803 décrétée par Napoléon qui interdisait l'usage d'un prénom non issu du calendrier. Bah, c'est ainsi que depuis, nous avons eu des Jordan, pardon, des Cameron. Mais heureusement, les officiers de l'état civil ont refusé Clafouti, Excel, Astérix, Titeuf ou encore Mini Cooper.
Le lendemain, alors qu'il est il est à court de ressources financières, Jean-Claude Roman tue sa femme et ses deux enfants de 7 et 5 ans. Il récidive le lendemain en tuant ses parents. Roman a menti à ses proches pendant 18 ans en se prétendant médecin et chercheur alors qu'il n'avait aucune activité.
Fin février, le 26, une bombe de plus de 600 kilos explose au World Trade Center à New York. L'attentat fait 6 morts et plus de 1000 blessés. Mais l'objectif de destruction des deux tours jumelles est raté, provisoirement. 20 jours plus tôt, décédé à 49 ans, le champion de tennis noir américain Arthur Ashe, engagé contre l'apartheid et contre le sida. Il fut le premier tennisman noir à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem. Tiens, écoutez le témoignage de Yannick Noah qui considérait Ashe comme son mentor.
Dès le début, il n'avait pas accès au court. C'était pas un sport pour black. Le tennis est passé professionnel en 68. C'est incroyable parce qu'à l'époque, on dit le problème d'Arthur Ashe, c'est qu'il est un petit peu trop blanc. Arthur a été, il a été numéro un mondial, a gagné 3 titres du Grand Chelem. Arthur Ashe était plus qu'un champion. Et c'est vraiment l'exemple type de l'athlète qui était plus grand que son sport. Arthur Ashe était bien plus grand que le tennis, quoi. Les premiers centres de tennis dans les cités, c'est lui qui a créé ça. Il y a des centaines de milliers de gamins qui ont pu jouer grâce à lui. Il a laissé ça. Je savais que lors de ma finale, Arthur était là parce qu'en fait, il commentait le match pour une chaîne américaine. Une fois qu'on m'a remis le trophée, tu peux pas imaginer comment j'étais fier. 11 ans avant, il me donne ma première raquette à Yaoundé. Il y a personne sait où c'est Yaoundé. Son histoire est liée à la mienne. Dans le livre de mon histoire, il y a Arthur. Et on a gagné. Fais ce que tu aimes, mais en tout cas, fais le bien. Et ça, c'était Arthur. C'était mon héros.
Le film Shortcuts, sorti le 3 octobre 1993, est l'archétype du film choral, un genre dans lequel s'est illustré Robert Altman dès les années 70 avec Nashville. L'exercice consiste à décrire en parallèle la trajectoire d'un grand nombre de personnages qui finissent ou non par se croiser. 12 tranches de vie où la gravité de l'existence affleure sous le grotesque. Car dans le film, Los Angeles n'est pas peuplé de vedettes ni de golden boys, c'est l'Amérique des gens ordinaires, VRP, barmen, flic ou maquilleur de cinéma en proie aux aléas de la vie quotidienne. Une certaine vision de l'Amérique, moyenne, librement inspirée de 9 nouvelles et d'un poème de Raymond Carver. Altman était venu en France en 1993 pour présenter son film.
C'est important, un prix. C'est la publicité gratuite, c'est comme ce qu'on fait là.
Oui, mais ce qu'on fait là, c'est pas gratuit.
Oui, mais c'est pas moi qui paye.
Wait, make me beg for it. Oh, please, harder.
Dans Shortcuts, il y a des mères de famille qui gagnent leur vie au téléphone rose, des ex-maris trompés qui se vengent sur les meubles, des policiers infidèles qui profitent de leur position pour obtenir un numéro de téléphone. En tout, 3 heures de spectacle, 22 personnages et 12 histoires qui s'entremêlent. 12 histoires où le tragique affleure sous le grotesque, la vie quoi.
Mais c'est exactement ce qui se passe dans ma famille et je crois que c'est ce qui se passe dans toutes les familles.
Dans vos films, on ne sait jamais s'il faut rire ou pleurer.
C'est exactement ce qui est en train d'arriver à votre caméraman. Il ne sait pas s'il doit rire ou pleurer parce que le soleil vient d'apparaître et tout d'un coup, moi je suis tout blanc. Je n'essaie pas de rendre le spectateur meilleur ou pire. J'essaie de lui faire dépenser 45 francs en espérant qu'il va aimer mon film. Comme ça, avec les 2 francs que je touche là-dessus, mis bout à bout, je peux faire un autre film. Et c'est ce qui me plaît.
Nous sommes donc à Los Angeles, dans les années 90, et nous suivons les destins de personnages aux prises, avec des drames, des émotions, des plaisirs, des surprises et des hasards de la vie. Le film commence avec une flotte d'hélicoptères qui pulvérise un insecticide sur la ville. Parallèlement, les différents personnages sont présentés en montage alterné.
Le docteur Ralph Waman et sa femme, Marianne, rencontrent Stuart Kane, vendeur au chômage, et sa femme, Claire, clown, à un concert de la violoncelliste Zoe Trainer. Ils décident, sur un malentendu, d'organiser une fête le dimanche prochain.
Alors, la sœur de Marianne, chérie, est mariée à un policier, Jane, qui la trompe avec Betty Withers.
Bien sûr.
En cours de divorce avec un des conducteurs d'hélicoptère, Stormy.
Oui, Doreen Pidgeot est serveuse dans un... Je ne sais pas si on dit Pidgeot ou Pidgeot, je ne sais pas. Elle est serveuse dans un restaurant et elle est mariée avec un chauffeur de taxi alcoolique, Earl. Le présentateur de télévision Howard Finnegan vit avec sa femme Anne et leur fils Casey à côté de la violoncelliste Zoé et de sa mère Tess, qui est chanteuse de cabaret.
Jerry Kaiser, nettoyeur de piscine, est marié avec Loïs, opératrice de sexe téléphonique à domicile. Ils sont amis avec Hooney, la fille de Doreen, et son mari Bill, maquilleur pour le cinéma, etc., etc. À la fin du film, un tremblement de terre secoue Los Angeles, rassemblant toutes les intrigues.
Alors, Shortcuts a décroché le Lion d'or à la Mostra de Venise. Autre prix reçu à Venise, celui de l'interprétation attribuée à, eh bien, à l'ensemble des acteurs.
C'est rare.
Oui, dans
oui,
une distribution
donc
très riche, avec plus de 20 rôles principaux, on retiendra entre autres Andy McDowell, Jack Lemmon, Julianne Moore, Chris Penn, Robert Downey Jr., Tim Robbins et Frances McDormand.
Alors, au moment de la sortie du film, Altman avait envisagé de tourner More Shortcuts, à partir d'autres nouvelles de Raymond Carver. Il avait même commencé à écrire un scénario, mais finalement, le projet a été abandonné.
Alors, dans le casting que j'ai donné, Altman a fait aussi appel à 2 chanteurs habitués à faire l'acteur, comme on dit.
Oui.
Lil Lovett et Tom Waits,
chanteurs
à la voix rocailleuse, la preuve avec Underground.
Underground.
Retour calendrier des événements. Le deux trimestres de 93 commence fort par le sport français puisque le 15 avril, le club de basket de Limoges remporte la Coupe d'Europe des clubs champions et devient ainsi le premier club français champion d'Europe dans un sport collectif.
Il y en aura d'autres.
Il y en aura d'autres, oui, bien sûr, il y en aura d'autres. Le 19 du même mois d'avril, après 51 jours de siège, la police américaine donne l'assaut contre la secte des Davidiens à Waco, au Texas. Un incendie allumé par les membres de la secte ravage la ferme forteresse, d'où seront retirés 82 corps calcinés. Mais qui donc était David Koresh, le gourou de la secte ?
Un chef spirituel qui ne recule devant aucun mensonge pour assouvir ses penchants les plus sordides.
Lorsqu'il commettait un péché, il se justifiait en disant qu'il n'était pas comme Jésus, qu'il était un messie pécheur qui s'exprime au nom de Dieu.
Ses vices corporels sur les enfants, cruauté mentale, pédophilie, Koresh va franchir toutes les limites. David Koresh, enfin, c'est l'histoire d'un homme qui pense que la fin du monde est imminente.
Ils l'ont suivi car il a réussi à les convaincre que c'était la fin des temps.
Un homme qui est persuadé que le gouvernement des États-Unis représente les forces du mal.
Nous sommes attaqués par le diable, par l'État fédéral, par les méchants de Washington.
Pour combattre cet adversaire, le gourou va se constituer un véritable arsenal de guerre. Sous ses ordres, la secte des Davidiens va se livrer à une lutte sans merci face au FBI, la police fédérale américaine.
Quand le FBI survole les camps retranchés en hélicoptère, à ce moment-là, il fait tirer à l'arme de guerre sur les hélicoptères.
Un affrontement qui va se terminer en apocalypse.
Je ne sais pas s'il n'a pas donné des idées à certaines autres personnes.
Je ne sais pas, peut-être.
Oui, on se demande.
Bon, fin avril, 93 toujours, hein, bien sûr. La joueuse de tennis Monica Seles est poignardée dans le dos par un spectateur au tournoi de Hambourg. Elle plongera dans une dépression qui la privera de victoire pendant plus de 2 ans. Le 1er mai, Pierre Bérégovoy, ex-premier ministre, se suicide après avoir été mis en cause dans une affaire de malversation financière.
Et enfin, le 26 mai, le club de Limoges n'est plus le seul club français à être champion d'Europe. Il est rejoint par l'Olympique de Marseille qui remporte la Coupe d'Europe de football contre le Milan, 1-0, but de Basile Boli.
De la tête,
absolument. Bonne nouvelle, sauf pour les supporters du Paris Saint-Germain, bien sûr. Allez, aujourd'hui on rembobine donc. Hein. On remonte 32 ans en arrière. 1993, c'est une année qui a secoué les écrans comme rarement. D'abord un grondement. Vous l'entendez ?
Oui, un peu.
C'est celui du Jurassic Park. Pour beaucoup, c'est plus qu'un film, c'est une révélation. Pour la première fois, les dinosaures n'ont pas seulement l'air vivants, ils semblent respirer et regarder le public. Spielberg déclenche ici une révolution numérique presque sans prévenir.
Et pendant que ses créateurs font trembler les fauteuils des multiplexes...
C'est les créatures même.
Les créatures, oui.
Le créateur de Spielberg, c'est ses parents.
Oui.
Le même Spielberg signe aussi la liste de Schindler. Deux films, deux continents émotionnels. D'un côté, le rêve et la peur. De l'autre, la mémoire et la honte du monde. 1993, c'est aussi ça. Le cinéma qui sait être grand public et grave à quelques mois d'intervalle.
Mais cette année-là, l'univers du cinéma ne tourne pas seulement autour d'Hollywood et de Spielberg. Jeanne Campion dépose un voile de mystère avec le son de piano. Palme d'or à Cannes, sensible et sensuelle, qui consacre Holly Hunter avec le prix d'interprétation féminine. Kielowski, lui, plonge Juliette Binoche dans un bleu profond avec 3 couleurs de points bleus. Un deuil qui pulse comme une note de musique.
Jonathan Demme, lui, nous émeut avec son Philadelphia. Ouais. Tom Hanks y est magnifique en héros malade qui se bat malgré la mort qui rôde. Il sera d'ailleurs prix d'interprétation masculine à Cannes. Et puis, il y a des films plus discrets, ceux qui circulent de main en main, comme des secrets de cinéphiles.
Par exemple
Arizona Dream, trip poétique de Costa Rica, où Johnny Depp semble flotter dans un rêve éveillé. Germinal nous entraîne vers les corons et la révolte des mineurs réprimés par une police aux ordres des puissants.
Ça n'a pas beaucoup changé.
Non. Sous la houlette de Claude Berry, Renaud Depardieu, Isabelle Huppert se donnent la réplique.
Et alors, chemin faisant, 93 n'oublie pas de nous faire sourire. Robin Williams, par exemple, se glisse dans l'une de ses performances les plus tendres avec Madame Doubtfire. J'ai un peu bugué là, excusez-moi. Je vais pas la refaire. Bill Murray, lui, revit le même jour encore et encore dans Un jour sans fin. Vous savez, le jour de la barbotte. Un concept qui, depuis, a fait des petits partout.
Et Demolition Man nous offre un futur improbable, plein de muscles et de satire et de trois coquillages dont personne n'a jamais compris l'usage.
Et quand on referme la boîte à souvenirs de 1993, on réalise une chose. Cette année-là, le cinéma avait un pied dans le passé, encore chaud de l'argentique, et l'autre est déjà plongé dans l'ère numérique, celle qui allait tout bouleverser. Voilà pourquoi 1993 ne s'est pas contenté d'être une bonne année de cinéma, elle a été un séisme, un de ceux dont on se sent encore les répliques aujourd'hui.
Et alors, si certains artistes nous quittent, on va citer Cyril Collard, Fellini, Raymond Burr, vous savez, l'homme de fer, là. Oui. River Phoenix, le frère de l'autre, Audrey Hepburn, Roland Blanche. D'autres arrivent, tel Vincent Lacoste ou encore Adèle Exarchopoulos. Côté musique, s'en vont Dizzy Gillespie, Frank Zappa et Léo Ferré.
Rencontré par hasard, ici, ailleurs, ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en. Les belles années passent vite. Et maintenant, tu vas partir. Tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi, je conserve le piano. Ma vie d'artiste, plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais, un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, 2-3 fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
Oui, alors c'est dingue et puis c'est fatigant lors de ce voyage en 1993. Je vous propose une petite halte, si vous le voulez bien. Vous êtes d'accord ?
Oui, volontiers, oui.
Et pour ça, on va s'asseoir sur notre canapé parce qu'on est un peu fatigué. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sur le canapé ? On allume la télé.
Oui.
Qu'est-ce qu'on voit à la télé ? On voit des films.
On voit des films.
On va en voir quelques-uns d'ici, depuis ce soir jusqu'à lundi soir
prochain.
Et alors chacun d'entre nous a choisi un film qu'il aimerait bien partager avec les auditeurs.
Alors moi, ça sera lundi. Il faut attendre à 20h55 sur Arte.
À quelle heure ?
À 20h55 sur Arte. C'est Fargo des frères Coen. Réalisateur incroyable, avec une réalisation entre humour noir et ironie, qui joue des codes du polar. Grand film à regarder avec vraiment un second degré incroyable.
C'est avec qui ?
Alors, c'est avec Frances McDormand qui fait une policière enceinte et William Massey qui fait un vendeur de voitures, un peu à la ramasse, et qui va provoquer le kidnapping de sa femme pour pouvoir récupérer de l'argent.
D'accord. Oui, voilà. Ça, c'est pas idiot.
Et c'est incroyable.
C'est une belle idée, ça.
C'est absolument génial. C'est à voir et à revoir.
C'est des frères Coen, vous l'avez dit, mais je le répète.
C'est sur Arte.
C'est sur Arte à 20h55, lundi. C'est vraiment, vraiment à voir.
D'accord, lundi.
Et c'est lundi. D'accord. 8.
Et alors après, qu'est-ce que...
Écoutez, moi j'en ai deux, alors choisissez le 1 ou le 2.
Le 2,
très bien, ça tombe bien, c'est celui que je voulais.
Voilà.
Eh bien, c'est un film de Brian De Palma de 1981.
Ah.
John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow.
Ah, c'est le film fantastique, là, non ?
Non, c'est Blow Up.
Oui, mais c'est ça, oui, Blow Up.
Bah, c'est plutôt un polar. Hein, mais...
Oui, mais enfin, bon...
C'est un film fantastique. Oui. C'est l'histoire d'un gars qui est preneur de son pour des maisons de production qui réalisent des films d'horreur à caractère porno.
C'est ce que je voulais dire.
Voilà. Et un soir, il se retrouve dans la campagne pour enregistrer des bruits d'oiseaux, enfin des sons d'oiseaux et d'animaux.
Voilà.
Et il entend une sorte de bang. Et puis, quelques temps après, comme un pneu de voiture qui éclate.
Voilà.
Et quelques temps après, ben, il se rend compte que la voiture, elle est tombée dans un fossé. Il parvient à sauver la fille qui était dans la voiture, mais pas l'homme politique qui l'accompagnait. Et en écoutant la bande, Jack, donc John Travolta, est persuadé que le bruit bizarre n'est pas simplement le pneu qui éclate, mais le bruit d'une détonation. C'est un film extraordinaire.
C'est fantastique.
Très, très bien.
C'est un film extraordinaire.
Pas du tout fantastique, mais aussi, ouais.
Mais très, très, très bien. C'est un chouette polar.
Alors ça, c'est quand, donc ?
Donc, c'est vendredi 5 décembre. À 21h05.
Je suis sûr de moi.
21h05 sur France 5.
D'accord. Alors moi, ce sera dimanche. À 13h10, donc sur Ciné Plus Classique. Le Bel Antonio, film de 1960 de Mauro Bolognini. Alors, de quoi il est question dans ce film ? Du Bel Antonio, qui fait le titre du film, c'est Marcello Mastroianni. Il revient en Sicile après avoir passé quelques années à Rome, et il a une réputation de séducteur qui s'est affirmée au fil du temps. Et ses parents décident de le marier avec la fille d'un riche notaire, qui s'appelle Barbara. Et Antonio en tombe amoureux éperdument, tout ça, ça se passe bien, il se marie. Sauf que quelques années plus tard, les parents de Barbara veulent le divorce parce que le mariage n'est pas consommé. Et oui, ça peut arriver. C'est alors que l'impuissance d'Antonio éclate au grand jour, l'ombre du déshonneur plane évidemment sur la famille. C'est magistralement joué par Marcello Mastroianni, qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait passé quelques interviews de lui où il refusait absolument l'image du Latin Lover.
Oui, tout à fait.
Un argument qu'il avait le plus souvent joué des rôles d'impuissant.
Ouais.
C'est le cas dans ce film. C'est un film entre mi-chemin entre le drame intime, on va dire, et la fable sociale, au moment un voyage dans la société italienne où la domination masculine était de règle. Barbara est jouée par Claudia Cardinale et le scénario est signé Pasolini aussi.
D'accord.
C'est des gages de qualité quand
tout
même.
Tout à fait. Oui.
Dimanche 7 décembre.
Et l'ambiguïté en même temps.
Oui, bien sûr. Dimanche 7 décembre à 13h10.
D'accord.
Voilà. C'est tout ce que je voulais dire.
Est-ce que je vous ai dit que le vendredi 5 décembre, il y avait
non,
même...
Mais non, ça...
voilà. D'accord.
Allez, le 31 juillet, le roi des Belges.
93, on est revenu.
On est revenu en 1993. Donc le roi des Belges, Baudouin Ier, meurt d'un arrêt cardiaque alors qu'il est en vacances en Espagne. des foules immenses rendent un dernier hommage aux disparus qui a régné pendant 42 ans. Ouais. Et oui, le 29 août, au championnat du monde de cyclisme sur route à Also, l'Américain Lance Armstrong obtient la médaille d'or. Tiens médaille, donc. Bizarrement, qui ne lui sera pas retirée, oui. Contrairement à ses victoires obtenues à partir de 90.
Et c'est 7 Tours de France.
Et c'est 7 Tours de France, tout à fait. Alors, le mois de septembre connaît un séisme dans le Maharashtra, en Inde, qui fait près de 10 000 morts, figurez-vous, et environ 30 000 blessés. C'est énorme, hein.
Et oui.
Oui, le 13 septembre a lieu à Washington la signature d'accords israélo-palestiniens sur Gaza et Jéricho.
En quelle année c'était ?
13 septembre 93.
Ah, 93.
Signature qui sera vite remise en cause.
Ah bon.
Bon, allez, plus léger, le 18 septembre est donnée la première représentation de la pièce de théâtre Le Dîner de cons, écrite et adaptée au cinéma par Francis Weber, avec entre autres, évidemment, Jacques Villeray et Thierry Lhermitte.
Ah oui.
La Tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement.
C'est vous qui avez fait ça ?
C'est une de mes plus belles pièces.
J'en tiens.
Comment est-il ?
Un champion du monde.
Je ne sais traque, moi. Laquelle ?
C'est pas vrai. Tu l'as invité ici ?
Je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux.
Allez, bonne soirée. Et tâchez d'être brillant, hein.
Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con.
Un dîner de con. Vous ne connaissez peut-être pas le principe. Chaque invité amène un con.
Oui, oui, il est là, oui. Il a une belle tête de vainqueur.
Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père quand on est con.
Il s'appelle Juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est Juste ?
Oui.
Eh bien, lui, c'est pareil, c'est Juste.
Quand on est con, on est con.
On a assez perdu le temps comme ça.
Quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père.
C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner ?
J'en peux plus, Juste, j'en peux plus.
Entre-vous plus de controverses qu'on caduque.
Oh, le con ! Oh, le con !
Il est con, là.
La dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
C'est vous qui deviez dîner avec lui ce soir ?
Oui, comment le savez-vous ? Il vous a parlé de moi ?
Oui, mais même sans ça, je vous aurais reconnu.
Vieux con des neiges d'antan.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes ? Et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape.
Sur 91.3 ou de radio, bien entendu.
Ça marche toujours, le dîner de con.
Ah, le dîner de con, ça c'est énorme. Hein.
Alors, le 1er janvier 1993, sortait à Hong Kong Adieu ma concubine, réalisé par le cinéaste chinois. Alors, je ne garantis pas la prononciation.
Chen Cage.
Chen Cage. Un petit résumé.
Allez.
Enfant, Douzi et Charlotte se sont liés d'une amitié particulière à l'école de l'opéra de Pékin. Ils ne se sont jamais quittés, jouant ensemble « Adieu ma concubine », célèbre pièce de théâtre évoquant les adieux du prince Zhang Yu et de sa concubine Yu Ji, et le suicide de celle-ci avant que son bien-aimé ne soit défait et tué par Liu Bang.
Le film s'inscrit totalement dans cette dynamique des grands récits passionnels où les amours et les destins sont constamment brisés ou prisonniers d'une fatalité dans laquelle ils ont été inscrits dès les premières pages. Ici, le carcan est moins mystique que sociétal et frappe directement les deux grands acteurs de l'opéra chinois, Jiayi et Xialu, dont les rôles phares du roi Chu et de sa maîtresse ont été inculqués à coups de trique. La première heure du film est absolument terrible d'ailleurs. Plus tard, rejoint par la future épouse du second Zhu Jian, ex-prostituée, qui entraînera la marque et la colère toute sa vie. Un triangle amoureux d'autant plus houleux et souvent déséquilibré que Jill est un homme dont la sexualité a été féminisée dès le plus jeune âge pour se conformer à l'image de son personnage.
Le film ne parle finalement que de l'opposition entre absolu et médiocrité des contingences du réel qui, elle, amène l'ambiguïté. Cette ambiguïté maudite avec laquelle doit composer Douzi, être éperdu d'absolu qui ne sait vivre sans passion et ne peut se résoudre au compromis.
Alors un petit mot sur le réalisateur.
Par exemple,
ah bah oui.
Chen Cage est notamment connu pour ce film, mm-hmm. lequel il remporta d'ailleurs la Palme d'Or du Festival de Cannes. Et il est le premier et à ce jour le seul réalisateur chinois à avoir remporté ce prix.
Oui.
Bravo. Il est considéré comme l'un des chefs de file de la cinquième génération. Je ne sais pas, cinquième, c'est la...
C'est juste celle après la quatrième.
Oui, non, mais
C'est mais je ne sais pas à quoi ça correspond, monsieur, je suis désolé.
D'accord, vous écrivez des textes,
vous savez. J'écris des textes, mais vous aviez qu'à chercher, vous aussi, d'ailleurs. Hein.
Bah, c'est ce qu'on va faire. Mais sa carrière ne s'arrête pas là. Enfin, si, à Patrick, si, mais il a réalisé bon nombre de films qui prennent presque toute leur fondation dans l'histoire récente ou ancienne de la Chine. Cage, supporter de Mao, oui. Ayant appris le petit... Il a écrit le petit livre rouge, ayant participé au défilé militaire, ne pouvait pas rester indifférent, évidemment, à l'histoire grandiose, ou sordide, d'ailleurs, de son pays.
Et alors, on retrouve Chen Cage et l'acteur Leslie Cheung dans l'interview qui suit, où ils évoquent le film.
C'est l'histoire d'un amour fou, l'amour du héros qui joue la concubine sur scène pour son partenaire qui joue le roi. L'histoire de la trahison au rythme des événements historiques, trahison qui les détruira.
La raison pour laquelle j'ai fait ce film, c'est qu'à mon sens, il est très important de montrer plus ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans l'histoire chinoise. Et puis, également, je m'intéressais à cette relation triangulaire parce que l'on peut voir énormément de choses sous des tas d'angles différents. Et puis bien sûr, je voulais quand même dire que l'opéra de Pékin est quand même une forme d'art magnifique qui disparaît malheureusement. Il n'est peut-être pas trop tard pour dire aux gens que l'art est encore là, tournons-nous vers le passé une dernière fois, c'est tout.
Mon personnage est un être faible, il ne se sent fort que sur scène, c'est là qu'il s'épanouit. Mais il confond son rôle avec la vie, il refuse ce monde dans lequel il n'est pas la concubine aimée par son roi.
Les acteurs principaux sont impeccables. C'est par Leslie Cheung. Il interprète ici aussi sobrement que brillamment un jeune homme brisé dans son enfance et qui n'a trouvé de raison de vivre que dans la complète assimilation de son art dans sa vie. Il est ainsi devenu son plus grand rôle opératique, celui de la concubine d'un roi, au point de tomber amoureux de l'interprète de ce dernier, son ami et frère de scène depuis toujours, Xialu, joué par un Zheng Fengji intense, truculent et profondément humain, jusque dans ses excès. Gong Li, enfin, m'a subjugué par sa beauté et son naturel envoûtant dans un rôle de prostituée qui donnerait envie à n'importe quel homme de courir les bordels.
Ah bon?
Adieu
elle
ma
est belle,
elle est magnifique,
Gong Li, vraiment. Oui.
Adieu ma concubine est un film étrange, puissant, intense, auquel nous convie Cage. Un film où les pulsions se doivent d'être tues sous couvert de bienséance. Pour autant, le côté homosexuel de Duzi est édulcoré pour ne pas froisser les hautes sphères, et, puisqu'en plus c'est interdit.
C'est un oui.
La musique du film est signée Zhao Jinping, donc Big One Love.
Oui, Patrick.
Alors, on a fait quelques recherches quand même pour pas mourir idiot. Les réalisateurs de la cinquième génération proviennent d'un courant qui date des années 80 et qui regroupe les cinéastes chinois ayant étudié le cinéma après la révolution culturelle. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils sont basés de la cinquième génération dans la hiérarchie. Et donc, Ken Jeong en était un des fers de lance.
Très bien. Alors, nous entrons dans le dernier trimestre de 93 avec le 15 octobre, le prix Nobel de la paix qui est décerné aux deux artisans de la réconciliation sud-africaine, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk. 15 jours plus tard, avec l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, la communauté économique européenne cède la place à l'Union européenne.
Vous dites Maastricht, vous ?
Oui, c'est comme ça que ça se dit.
Oui, moi je dis Maastricht parce
Parce que vous ne connaissez pas l'hollandais, je pense.
C'est vrai.
Vous êtes bilingue.
Je connais des hollandaises, mais je ne connais pas le hollandais. Sans rapport avec ce qui précède, et sans transition, le 16 novembre décède Achille Zavatta.
Ah oui.
Bah oui, clown, acrobate et trapéziste. Le 17 novembre, défaite à la dernière minute de l'équipe de France de football face à la Bulgarie à Paris en match éliminatoire de la Coupe du Monde 94. Merci qui ? Merci David Ginola. Oui. Et la France n'ira pas en Amérique.
Allez, pour finir, le tsar de la drogue et dirigeant du cartel de Medellín, Pablo Escobar, est abattu par la police colombienne le 2 décembre. Les revenus de son cartel sont estimés à 30 milliards de dollars par l'année.
C'est tout ?
Par année. Et le magazine Forbes le classe au septième rang des plus grandes fortunes du monde.
Rien que ça.
Eh oui.
Pablo Escobar ne tuera plus. Le parrain de la drogue a été tué par les policiers à Medellín en Colombie.
Pour avoir passé le coup de fil de trop, Pablo Escobar achève sa carrière sur une civière, le corps criblé de balles. Avant-hier, le jour de ses 44 ans, il téléphone à son épouse et à ses deux enfants. Tous trois séjournent dans un hôtel de Bogota après avoir été refoulés d'Allemagne. Mais quand il décroche le combiné, Escobar ignore que quelque part dans Medellín, une camionnette truffée de matériel électronique reconnaît sa voix et localise l'appel. Le lendemain, 500 policiers et soldats bouclent le quartier. Escobar apparaît sur le toit de cette maison qui lui sert de planque. Sur les forces de l'ordre, il vide un puis deux chargeurs et tombe un pistolet dans chaque main. Une heure après l'action commando, la mère et la sœur d'Escobar reconnaissent le corps. Simultanément, une partie de la population rend hommage à celui qui a inspiré crainte et respect. Monsieur Cocaïne avait grossi, il s'était laissé pousser la barbe, artifice d'un homme en fuite qui depuis 16 mois vivait dans la clandestinité. Ce soir, les forces de sécurité colombiennes quadrillent la ville de Medellín dans la crainte d'une vague d'attentats.
Cuisine et dépendance, réalisé par Philippe Muille. Et l'adaptation de la pièce de théâtre homonyme écrite par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Une pièce, la cuisine. Des personnages qui rentrent et sortent, qui rient, qui s'engueulent, qui pleurent. On pourrait se croire dans un vaudeville, mais le film va beaucoup plus loin. C'est une comédie humaine.
Le dîner organisé ce soir-là par Jacques et Martine devait être un événement. Il sera une succession de petits drames pour finir en coup de théâtre. Le retard de 2 heures du principal invité et de sa femme, le haddock trop salé, la misanthropie constante de Georges, l'interminable partie de poker en fin de repas, tout est fait pour survolter les uns et lasser les autres.
Elle l'invite à dîner. Elle et son mari Jacques, pour des raisons différentes, veulent absolument que cette soirée soit une réussite. Mais les invités ont près de 2 heures de retard. Un grain de sable qui fera s'enrayer la belle mécanique de cette soirée tant attendue.
Alors ils sont 7 à table. Jacques, obsédé à l'idée que cette soirée puisse ne pas être une totale réussite. Martine, qui nourrit pour son invité une fascination très ambiguë. Georges, un autre ami d'il y a 10 ans, alors misanthrope définitif, qui squatte le salon depuis 6 mois et qui ne voit pas ce dîner dans mon œil. Fred, le frère de Martine, joueur invétéré mais tellement sympathique, poursuivi jusqu'ici par ses créanciers. Marilyn, sa petite amie, objet de tous les fantasmes masculins. L'invité, brillant, séduisant, riche, célèbre. Charlotte, sa femme, active en affaires et peut-être nostalgique en amour. Voilà, tout s'annonce bien, mais tout commence mal. Dans la scène suivante, on retrouve Georges, joué par Jean-Pierre Pacri, Sam Carman dans le rôle de Jacques et Jean-Pierre Daroussin dans celui de Fred.
T'es pas gay, toi, hein ?
Oh, mais tu le connais, hein, Georges, c'est le contraire d'un gay.
Ouais, ouais, bien sûr, mais enfin, disons que ce soir, je le trouve carrément éteint, quoi, si tu veux.
Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ?
Un numéro de claquette ? C'est quand même pas obligatoire. Vous êtes gay, vous êtes content, bon, ben c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. J'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins.
Mais est-ce que quelqu'un te demande d'éclater de rire comme un crétin? On te demande simplement de ne pas glacer l'atmosphère. C'est quand même moins contraignant.
C'est vrai que t'as jeté un gros froid pendant le repas. Hein. Oh. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi, d'ailleurs. Et j'ai le regret de te dire que j'ai trouvé sa réaction mais impériale.
Ah ouais?
Ah oui. Oui, oui, beaucoup de sang-froid, beaucoup d'humour. Hein. C'est vrai, il connaissait bien le sujet, il aurait largement pu l'enfoncer.
Bien sûr, bien sûr. Et il ne l'a pas fait. Ah, ouais. Ah mais lui, c'est particulier, tu comprends, non? Lui, il observe de vieilles coutumes ringardes qui consistent à ne pas foutre la merde dans une soirée.
Il aurait pu t'enfoncer.
En plus, 75% des gens sont d'accord avec lui.
Et alors, quel rapport?
Eh ben, c'est la majorité.
Nous, c'est la majorité, mon vieux, puis c'est tout, et puis voilà, hein, c'est la majorité. Voilà. Laquelle, d'abord? Laquelle? Celle qui pensait que la Terre était plate? Celle qui veut rétablir la peine de mort? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode? Laquelle, exactement?
Cuisine et dépendance, bah, c'est l'esprit râleur qui mène nulle part. Oui. Jacques et Martine sont les adeptes bourgeois de la coutume parisienne dite du dîner. Ils sont trop contents de pouvoir y participer. Ils vont cependant tout rater. Leur cuisine devient une antichambre de la mesquinerie urbaine où tout le monde fait bonne figure, bien que tout le monde se déteste. On se jalouse, on se jauge, on se méprise. Pire, on s'attache à 10 ans d'amitié alors qu'on n'a plus rien à se dire.
Dans la cuisine, on y dit des vérités. Elle reste aussi un haut lieu de non-dit. Si l'appartement de Jacques et Martine est l'empire de la mesquinerie, alors leur cuisine est le royaume de l'hypocrisie. Dans toute cette cuisine, on se moquerait presque du dîner. Un détail de l'histoire.
Alors, il faut souligner que la pièce signée Jaoui et Bakri réunissait déjà les 5 interprètes du film. Et elle décrocha cette pièce 4 Molières. Alors, la distribution, je la reprends, comprend Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bakri, Zabou Breitman, Sam Kerman et Jean-Pierre Daroussin. Et la musique est signée Vladimir Kosma.
Tiens, bonsoir.
Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Eh bien oui, c'est vrai, on vous le dit chaque semaine. Après avoir regardé quelques films à la télévision, il serait temps peut-être de profiter des salles obscures pour aller nous réchauffer, manger des pop-corns et voir de bons films dans les salles de cinéma. C'est donc l'objet de cette chronique qui s'appelle « Les sorties de demain ».
De demain.
Tout à fait.
Voilà.
Qui commence ? Jean-Jacques ? Bah,
je veux bien. Alors, c'est assez faible cette semaine.
Oui.
Mais j'ai trouvé un documentaire, alors je ne sais pas si ça sort dans toutes les salles, il faudra se documenter. C'est...
Sur un documentaire,
ouais,
ce qui est bien.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de hasard, Patrick, il n'y a pas de hasard. Le documentaire s'intitule The Doors When You're Strange.
Oui, mais ça c'est un vieux film qui
sort.
Hein.
Bien sûr, c'est un film qui date de 2010,
ouais.
C'est un documentaire musical de Tom DiCillo, alors, qui regroupe certains membres des Doors. Et on rappelle peut-être que les Doors furent l'un des groupes de rock les plus influents des années 60.
Oh oui.
Et alors donc le documentaire de Tony Sinner retrace le parcours du groupe avec des séquences assez rares tournées depuis leur formation en 65 jusqu'à la mort du chanteur charismatique Jim Morrison. 71. Et pour égayer le tout, à la narration originale, c'est Johnny Depp,
oui.
Voilà. C'est The Doors When You're Strange, à voir où ça sort, je sais pas trop, mais j'ai pas trouvé autre chose.
Ah ouais, moi j'en ai
alors
trouvé.
Vous,
bah moi j'ai trouvé deux films qui sont intéressants, enfin que
alors
je trouve intéressants.
Ah bon.
Alors je vais vous dire le deuxième d'abord.
Le deuxième.
Bah, oui.
Ouais, parce que ça, en plus
deux.
Ça va vous plaire.
Ah.
Ouais. Ça s'appelle Panique à Noël.
Ah oui.
De Henrik Martin Dashbacken avec Vivid Falkberg et Vegard Strandell.
C'est des Allemands, non ?
C'est non, c'est norvégien, je crois.
Oui.
Alors, c'est un film à partir de 6 ans. C'est pour ça que ça va vous plaire, Annelise. Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison.
Catastrophe.
Tout est prêt pour les fêtes parfaites, jusqu'à l'irruption d'un truc qui débarque soudain. Des humains. Pire, une famille d'humains qui souhaitent eux aussi profiter d'un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger. Elles décident de faire fuir coûte que coûte les troubles fêtes. La guerre est déclarée et dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeau. J'ai trouvé le pitch super rigolo.
Merci.
Je trouve ça assez marrant.
Oui, eh ben écoutez, à voir
drôle,
alors.
Hein, le pitch est très drôle.
Voilà. Et alors, j'en ai un petit deuxième, si vous voulez, de Nathan
Ambrosioni. Très vite alors, très très vite.
Où les enfants vont bien.
Merci.
Avec Camille Cotin, Juliette Armanet, Monia Chokri. Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend visite impromptue à sa grande sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu, mais non seulement elles ne se sont pas vues depuis des années, mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot des épères de sa sœur. La sidération laisse place à la colère jusqu'à la gendarmerie. Jeanne ne comprend aucune procédure de recherche, ne pourrait être engagée. Et Suzanne a fait le choix insensé de disparaître en laissant ses deux enfants à
d'accord,
sa sœur.
Très bien.
Très bien.
Camille Cotin, Juliette Armanet, Monia Chokri.
Voilà. Et vous alors,
Eh bien, moi, j'en ai pas.
Bon,
c'est pour ça que j'en ai deux.
C'est parce qu'en fait, j'ai trouvé que, que ce soit les biopics qui vont sortir, les comédies, les blockbusters et autres ressorties, c'était un lot un peu déprimant. Et du coup, j'ai pas choisi de film. Voilà.
Bon, mais on se prépare aux grandes sorties de Noël.
Écoutez, j'espère que ça va arriver parce qu'alors là, c'était un peu catastrophique.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, je suis d'accord.
Voilà, je voulais pas faire un choix par défaut.
Très bien. Bon, ben voilà.
Eh bien, voilà, Cinéscent, c'est déjà fini.
Oui, ça, on s'en doutait un peu.
Enfin, jusqu'à ce que tout recommence.
Ah bon ?
Vous pouvez sortir de chez vous et continuer à avancer dans le calendrier républicain pour connaître les différents noms donnés aux jours de l'année qui sont tous les plus incroyables.
C'est passionnant, on n'a que ça à faire.
Mais avant, pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram
devant.
Ou Facebook, mais aussi retrouver tous les épisodes en podcast sur le site d'Eau de Radio, rubrique Cinéscent. Mardi prochain, pour notre 10e épisode, nous irons à la rencontre de deux personnalités qui ont marqué l'histoire du cinéma.
Et ce sera à 14h sur Eau de Radio, 91.3, bien entendu. Et je fais un grand coucou bonjour à mon amie Annie qui nous écoute des Pyrénées.
Coucou Annie. On se quitte avec la perle musicale du jour,
dénichée
par Jean-Jacques,
oui,
qui,
moi.
J'en suis sûre, restera dans nos vies de façon éternelle.
Je suis pas sûr. Bon, alors, le mardi, dans Cinéscent, c'est jour de choucroute.
Ah.
Bon appétit, pas. Donc. Mais alors, attention, hein, parce que, tout de même, celle qui va suivre, de M. Bretzel, date de 1993.
Aïe, 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 aïe.
Allez, à mardi prochain.
Oui.
Et en attendant...
Vous êtes toujours là, oui.
Bon vent à tous.
Bon vent à tous.
Thank you.
Aveyron. Raymond se paye une choucroute au poisson. Elle a la couleur de ses cheveux. Enfin, quand il avait des cheveux. Au poisson, la choucroute au poisson, Raymond donne à ses baisers un coup choucrouté quand il n'a dans l'assiette qu'une arête de poisson. Il finit sa chope de bière et commande le dessert. Et commande le dessert.